Avant de lire le texte, je vous rappelle cette parole, je pense qu'elle est quand même très connue, cette parole de l'Épître aux Hébreux, on la trouve dans d'autres épîtres. N'oubliez pas l'hospitalité. Certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Alors on se demande toujours si ça va nous arriver et à quoi on reconnaîtra que ce sont des anges. C'est une parole de la lettre aux Hébreux. Elle fait suite à la prédication de l'apôtre de Paul, qui était ici dimanche dernier. Je me disais, il ne rit pas, aïe aïe aïe, c'est pas bon. Mais je trouve que dans les temps qui sont les nôtres, cette parole résonne d'une manière très spéciale. N'oubliez pas l'hospitalité. Après ces milliers de familles syriennes qui se sont embarquées sur la Méditerranée, voici maintenant en Europe une nouvelle déferlante ukrainienne. L'hospitalité, en grec, ça se dit, c'est pas pour étaler du savoir, c'est parce que, vous allez voir, c'est des mots connus en français. Ça se dit la philoxénia. Alors ça, on ne connaît pas trop, hein. Littéralement, ça veut dire l'amour de l'étranger. Et c'est le contraire de la, un mot beaucoup plus connu, c'est le contraire de la xénophobie. Oui, la xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'étranger. Autrement dit, l'hospitalité n'est pas inviter à sa table amis, frères et sœurs, famille. Les païens en font autant. C'est la pensée qui nous a été rappelée dimanche dernier. Lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, les Syriens, les Ukrainiens, et tu seras heureux. Il s'agit bien de la philoxénia par excellence, l'amitié gratuite pour l'étranger. L'exhortation de l'Épître aux Hébreux à l'hospitalité ajoute que certains, en l'exerçant, ont logé des anges. Et la référence à l'épisode de la rencontre de Mamré dans le livre de la Genèse, où Abraham reçoit la visite de trois mystérieux étrangers qui sont appelés dans le texte tour à tour, c'est pour brouiller les pistes, hein, homme, Seigneur, ange, on ne sait pas trop qui c'est. En tout cas, la référence entre la passerelle entre l'Épître aux Hébreux et Genèse 18 est trop évidente pour qu'on n'aille pas y regarder de plus près. Bon, je voudrais resituer quand même ce récit dans l'histoire du clan Abraham. La caravane du patriarche qui vient de Our en Chaldée, en Babylonie, là, près de, voilà, vous voyez, sur les rives de l'Euphrate, eh bien, elle s'est installée à Haran, et maintenant, elle a quitté Haran, qui est au nord de la Syrie, pour venir s'installer en Canaan. Et s'ensuit une période de famine qui va amener Abraham à nouveau à partir en Égypte. Et de retour en Canaan, Abraham et Lot vont se séparer pour mieux survivre en cas de nouvelle famine. Et Lot va choisir la plaine fertile du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, s'installe du côté de Sodome. Abraham, lui, choisit Hébron au chêne de Mamré. Et alors qu'il est installé dans son campement au chêne de Mamré, Dieu, qui lui était déjà apparu à cet endroit pour faire alliance avec lui et lui donner le nom d'Abraham, alors qu'il s'appelait Abraham. Abraham qui veut dire père de la multitude. Dieu lui apparaît à nouveau. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham et Sarah ne savent pas que c'est le Seigneur qui est là. On appelle ça dans la Bible une théophanie. C'est ce qui est en train de se produire. La théophanie, qui veut dire littéralement l'apparition de Dieu, c'est l'événement le plus rare et le plus troublant qu'on puisse rencontrer dans la Bible. Et généralement, il n'y a que le lecteur qui est au courant de ce qui se passe. Les acteurs du récit ne savent pas. Nous sommes, nous, lecteurs, préparés à l'exceptionnel. Ce qui va se produire sera lourd de conséquences pour Abraham et Sarah, et je l'espère aussi pour nous. Tout se joue donc en ce lieu, Mamré, à l'heure la plus chaude du jour, nous précise le texte. Abraham, en bon bédouin, est assis à l'entrée de sa tente. Il fait la sieste. C'est l'heure où hommes et bêtes cessent toute activité. C'est l'heure de la léthargie, de la mort apparente du monde des nomades. Je ne sais pas vous, les Bordelais, mais nous, les méridionaux, pour nous, la sieste, c'est sacré. Il y a quelques Espagnols, je crois, aussi, hein, par ici. On ne dérange pas un voisin entre 12h et 14h, 15h30 même, c'est encore mieux. À Marseille. Dans notre récit, le message est très clair. C'est une heure inappropriée pour demander l'hospitalité. Je voudrais qu'on observe un petit peu le jeu des placements des acteurs dans ce récit, c'est très important. Abraham est à l'entrée de la tente. Sarah est à l'intérieur de la tente. Et il faudra du temps à Sarah pour qu'elle se déplace, qu'elle se mette en mouvement de l'intérieur où elle se trouve vers le seuil. Alors qu'Abraham s'est immédiatement précipité dehors à la rencontre des étrangers. Vous voyez ? Il courut. Avant l'arrivée proprement dite de Dieu, Abraham se tient sur le seuil. Il se tient, on va dire, entre le dedans et le dehors. Et de là, il peut observer ce qui se passe à l'extérieur, tout en se tenant à l'ombre du haut vent de sa tente. Abraham est sur la limite entre le dedans, où la sieste est totale, la vigilance nulle, et le dehors où, justement, somnolence et vigilance cherchent un compromis. Et Abraham se tient là, dans cet entre-deux mondes, où il se définit comme un homme à la fois fatigué et en attente de quelque chose. Les deux. Le seuil de cette tente ressemble à un lieu existentiel pour nous. Où sommes-nous situés ? Notre vie chrétienne doit-elle se confiner à la sphère du dedans, du strictement privé ? Comme nous y encourage d'ailleurs une lecture injuste et quasi oppressante de la laïcité. On ne peut plus sortir dans la rue avec une guitare chanter un cantique. Il faut demander des autorisations, etc., etc. Notre lieu de culte est-il un lieu fermé, un lieu d'endormissement, un lieu de léthargie, je n'ai pas dit de liturgie, hein ? Notre foi prend-elle encore le risque de l'accueil, du dérangement, de la rencontre avec l'inattendu ? Et finalement, prend-elle encore le risque de l'accueil de Dieu ? La question est là. Où sommes-nous situés exactement, sœurs et frères ? entre ce dedans et ce dehors. Abraham, qui est plongé dans la somnolence, ressent soudain la présence de quelqu'un. Il leva les yeux et vit trois hommes, qui se tenaient près de lui. En fait, Abraham semble tout à fait surpris par cette présence. Il ne les a pas vus venir. Il n'a pas eu le temps de se préparer, de se donner une contenance, de se recoiffer, c'est la sieste, hein, ni de s'interroger sur l'identité des étrangers qui sont là. Ils sont là, c'est tout. Trois hommes et qui ne sont pas du caravansérail, pas de son clan. Abraham dormait, mais il était bien positionné. S'il avait été dedans, ces étrangers auraient peut-être passé leur chemin. Abraham est un peu comme ces paroissiens qui dorment pendant le sermon du pasteur. Bienheureux soit-il. Somnolent, mais bien positionné. Au cas où il se passerait quelque chose dans ce sermon, ce dimanche-là. Vous voyez, c'est pas pareil que d'être absent. Abraham est un peu comme ces jeunes filles avisées de la parabole de Matthieu 25. Elles dorment toutes. Mais certaines prévoyantes ont pensé à faire provision d'huile pour leur lampe, au cas où l'époux arriverait tard dans la nuit. Alors que voit Abraham ? Trois hommes, c'est tout. Nous, nous savons que c'est le Seigneur, mais lui, que sait-il ? Aucun détail n'est fourni concernant leur apparence, leur type ethnique, méditerranéen, africain, caucasien. Rien n'est dit. Il n'y a pas de signe extérieur de richesse. Sont-ils bien habillés ou pas ? Rien n'est dit. Il y a trois hommes. Et Abraham. Un point, c'est tout. Le Talmud, commentaire juif de la Bible, nous dit des choses intéressantes sur l'hospitalité, sur ce texte-là. Le Talmud dit que l'hospitalité qui est offerte à des voyageurs est une action plus grande que d'accueillir la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu. Cela veut dire que pour le judaïsme, accueillir l'étranger est plus important que d'aller au culte. Et cette vision des choses se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Dans la première épître de Jean, je lis « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Seigneur qu'il ne voit pas. » Abraham ne sait pas qu'il voit le Dieu invisible. À ses yeux, ce qui se tient devant lui, ben, c'est un trio de prochains visibles et il fait le choix de l'accueil. Cette scène de la rencontre entre Abraham et les trois inconnus, si on regarde le texte, elle commence par un long silence plein d'agitation. Il y a la présence silencieuse des trois voyageurs, le jeu des regards. Vous avez vu Abraham qui lève ses yeux. Et puis Abraham qui, de la position assise, se met debout, qui se précipite, qui se prosterne. Tout cela sans un mot. Le premier mot qui brisera le silence sera le mot « Adoni », « Mon Seigneur ». Adoni, mon Seigneur. Et pourquoi ce silence ? Parce que il est possible, vous en avez peut-être fait l'expérience, que quand on sait prendre le temps du silence, on parle vrai. la juste vision, le juste discernement et la juste parole se fabriquent souvent dans le silence de l'observation. Monseigneur, alors c'est une marque de respect, Abraham ne sait toujours pas qui sont ces hommes, mais il les considère comme plus grands que lui. Mais, mais en même temps, il ne dit pas « mes seigneurs ». Il y a trois personnes devant lui. Il dit « mon seigneur ». Perçoit-il déjà, sans en avoir pleine conscience, la présence de Dieu dans cette visite ? Quoi qu'il en soit, nous apprenons ici quelque chose d'essentiel sur l'hospitalité. Accueillir, c'est se faire serviteur de l'inconnu, de l'étranger, espérant trouver grâce à ses yeux, aux yeux de l'étranger. L'hospitalité, contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas accorder généreusement à l'étranger une place à sa table, fût-ce la meilleure, mais il s'agit d'espérer que l'étranger voudra bien s'arrêter un instant, par amitié, à notre égard. Pour Abraham, l'inconnu, l'étranger, est ce qui existe de plus important au monde à ce moment-là. Il est un don de Dieu. Il est une grâce qu'il ne veut pas voir s'éloigner, qu'il veut saisir pour lui. Accueillir l'étranger, ce n'est pas non plus le posséder comme Laban, annexera la liberté de Jacob en l'exploitant aux basses besognes. Non. Il s'agit seulement d'obtenir de l'étranger son accord pour s'arrêter quelques instants. L'hospitalité vraie garantit toujours la liberté de celui qui entre chez nous. Dieu est ainsi. Il consent à entrer, à venir, à demeurer chez nous, mais il ne se laisse jamais emprisonner par nos invitations, par nos cultes, nos façons de lire la Bible. Il reste libre. Comme Jésus qui disparaît à la vue des compagnons d'Emmaüs après avoir soupé avec eux. Eh bien, Dieu fait pareil. Il reprend sa liberté et son chemin après avoir demeuré chez Abraham un moment et lui avoir renouvelé sa promesse. Par touches successives, nous voyons un peu apparaître le sens de l'hospitalité, de l'accueil de l'étranger dans la Bible. Accueillir l'étranger, c'est d'abord adopter une attitude du cœur. C'est se tenir prêt, même si la fatigue de la vie nous plonge, nous met à l'arrêt, nous plonge dans peut-être le découragement, en tout cas la somnolence spirituelle. Accueillir l'étranger, c'est laisser un peu de place dans nos vies à l'inattendu de Dieu. Au fond, c'est s'ouvrir à la rencontre avec Dieu lui-même. En cette période de campagne présidentielle, les propos sur les étrangers, sur les migrants, s'expriment de façon défensive, suspicieuse, quelquefois violente. Nous sommes très très loin de cette vision de l'étranger mystérieux, fascinant, qui incarne la nouveauté de Dieu dans nos vies. Très loin de cela. Les migrants aujourd'hui, qu'ils soient ukrainiens, syriens, africains, portent sur eux les signes visibles d'une humanité qui est défigurée par la misère. Une humanité dont on ne veut pas. Une humanité qui dérange parce qu'elle aspire aux mêmes choses que nous. Un peu de respect. Un peu de justice. Un peu de fraternité. Un peu de travail. 4 sous pour nourrir les siens. C'est vrai que l'étranger n'est pas facile à accueillir, à aimer. C'est vrai aussi que, en réponse quelquefois à un accueil, on ne reçoit pas ce qu'on espérait recevoir. Et quand il y a de la haine, l'étranger aussi se montre capable de répondre à la haine par la haine. Oui, tout cela est vrai. Mais quelle posture allons-nous adopter à son égard en tant que chrétien ? Celle de Sarah, qui reste enfermée dans ses certitudes, elle n'aura plus d'enfants. Ou celle d'Abraham, ouvert, malgré tout, à l'inattendu de la rencontre. Saurons-nous reconnaître dans chacun de ces misérables, dans chacun de ces petits que Jésus appelle ses frères, la présence même du Seigneur frappant à la porte de nos cœurs ? Abraham, surpris dans son sommeil, s'est ouvert à l'étranger. Il s'en est fait le serviteur. Dans cet épisode de la Bible, j'ai voulu le montrer, j'espère que vous l'avez senti, tout est inversé. C'est Abraham, le propriétaire, qui trouve grâce aux yeux du visiteur et non l'inverse. Abraham, en fait, n'a que le pouvoir de s'ouvrir à l'hospitalité divine. Le message de la Bible renverse souvent l'ordre des choses, les définitions communes et admises. Celle de l'hospitalité n'y échappe pas. Alors, nous poursuivrons le travail de lecture, de méditation de ce texte dans 15 jours. Ce récit de Genèse 18 sur l'hospitalité. En attendant, nous sommes invités à manger par celui qui ne sommeille ni ne dort, qui nous visite ce matin, nous appelle et nous aime. Amen.